Myriam Cotias, bonjour.
Bonjour.
Avant de voir les images de CNN, beaucoup pensaient que l'esclavage s'était terminé, et vous ?
Non, on le sait très bien, l'esclavage n'est nullement éradiqué. Actuellement, il y a 40 millions de personnes qui sont considérées comme étant esclaves. Enfin, on a beaucoup parlé des femmes yézidites à un certain moment.
Des femmes ?
Yézidites, qui elles aussi sont vendues, elles sont vendues aux enchères, vendues et revendues, violées régulièrement. Alors, esclave, ça veut dire qu'il y a une personne qui exerce son droit de propriété sur une autre personne. Ça veut dire qu'on n'a plus d'identité, que les unions, les mariages sont contrôlés. On inclut aussi dans l'esclavage les mariages forcés, le travail forcé des enfants. On inclut également les enfants soldats. Donc autant vous dire qu'il n'y a jamais eu autant d'esclavage dans le monde qu'actuellement.
Ce qu'on apprend, Myriam Cotias, en lisant le dernier ouvrage du chercheur canadien Paul Lovejoy, une histoire de l'esclavage en Afrique, un ouvrage dont vous avez supervisé la traduction et l'édition chez Cartala, c'est que dans leur très grande majorité, ces quatre derniers siècles, les victimes de la traite transsaharienne étaient des femmes.
Des femmes, effectivement, qui étaient dans les harems, qui avaient des positions de servantes et qui étaient une véritable force de travail. Ce que Lovejoy montre, c'est que l'esclavage, c'est un mode de production. Et comment, en fait, la main-d'œuvre africaine va être pillée, que ça soit donc dans la traite transsaharienne avec les femmes, dans la traite transatlantique qui se développe avec la production du sucre, du cacao et du coton.
On parle beaucoup des malheureux qui sont embarqués dans les bateaux, on parle peut-être moins de ceux qui meurent en route. Selon Lovejoy, entre 1500 et 1830, quelques 20 millions d'Africains sont capturés pour être envoyés aux Amériques, mais quelques 8 millions d'entre eux meurent sur les routes. Est-ce qu'on a des chiffres pour la traite transsaharienne ?
Pour la traite transsaharienne, on est dans des fourchettes d'estimation qui vont entre 8 millions et 12 millions de personnes sur 12 siècles. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important parce que ça renvoie à des débats qu'il y a eu dans les années 2005 en France, où on a eu tendance à mettre à égalité la traite transsaharienne, la traite intra-africaine et la traite européenne en disant, finalement, les chiffres, c'est à peu près les mêmes. Alors, il est important de dire que même si on arrive à des fourchettes qui sont égales, il faut dire que pour la traite transsaharienne, on était sur 12 siècles. La traite européenne, là on est sur du 3 siècles et demi. Vous voyez, donc c'est quand même pas exactement la même chose en termes de massification du phénomène.
Et puis ce qui est important dans ce livre de Lovejoy dont vous avez supervisé l'édition française chez Cartala, c'est qu'on apprend que dès le 16e siècle, il y a un débat sur la question de savoir qui peut être esclave et qui peut ne pas l'être. C'est un débat qui est notamment animé par un savant de Tombouctou, le docteur Ahmad Baba, qui estime que tout le monde ne peut pas être esclave.
Le débat se fait autour de la foi. La ligne de partage étant être musulman ou ne pas être musulman. C'est-à-dire les personnes qui sont musulmanes ne peuvent pas théoriquement être mises en esclavage, tandis qu'il y a une sorte de justification, de légitimité, de réduire à l'esclavage des personnes qui sont des incroyants. Tout en sachant, et il faut le dire également, c'est que des personnes qui étaient musulmanes ont été aussi réduites en esclavage.
Et dans son traité de 1614, ce docteur de Tombouctou, Ahmad Baba condamne les états Haoussa de Katsina et de Kano qui se font la guerre entre eux et qui se mettent mutuellement en esclavage.
Oui, c'est aussi ça une autre question qui a même des débordements contemporains, puisqu'il y a toujours ce débat sur le fait que les Africains ont vendu leurs frères. Mais on peut opposer à cela le fait que les dignitaires Sangaï, par exemple, qui vendent des esclaves aux Européens, ne vendent pas leurs frères, ils vendent des étrangers, ils vendent des prises de guerre, ils vendent un butin de guerre qu'ils ne considèrent pas comme des personnes égales à elles-mêmes. Vous voyez, c'est-à-dire que cet argument donc tombe et il doit permettre de repenser l'histoire de l'esclavage au sein de l'Afrique parce que, c'est ce que dit Paul Lovejoy, mais c'est aussi ce que dit un chercheur comme Ibrahim Atioub de l'université Cheikhanta Diop au Sénégal. Il dit il est nécessaire de reprendre l'histoire de l'esclavage pour déconstruire tous les pouvoirs qui sont à l'œuvre en Afrique et qui permettent de montrer comment il y a eu des reproductions de pouvoir entre les personnes qui participaient au système esclavagiste jusqu'au 19e siècle et les personnes qui sont dans l'exercice du pouvoir actuellement en Afrique.
Voulez-vous dire qu'il reste encore dans les sociétés africaines d'aujourd'hui des traces, des relations entre les sociétés esclavagistes et les sociétés mises en esclavage il y a 200 ans ?
Pour moi, c'est évident, mais aussi à l'intérieur des sociétés. Prenons le cas du Sénégal, parce que là, je m'appuie sur les travaux du professeur Tube. Il y a encore cet héritage, il y a encore ce souvenir des relations relation esclavagiste. Il y a encore des maîtres d'esclaves qui pensent que de toute façon les esclaves ne peuvent être qu'esclaves parce que leur statut d'infériorité circule par le sang. Ils ont un sang esclave. Donc voyez bien que si on est dans des configurations sociales de cette façon-là, il est difficile de penser l'égalité.
Myriam Cottias, merci.